Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, la Ligue des droits de l'homme vous présente son émission mensuelle sur le thème de la santé. Là encore, il y a urgence. Quelques mots sur un dernier coup bas. Les arrêts de travail. Les arrêts de travail sans avis médical. Le Conseil national de l'Ordre des médecins fait part de ses réserves. Quant au décret relatif au contrôle des arrêts de travail paru au journal officiel du 26 août 2010, en application de la loi de financement de la sécurité sociale. Désormais, le service médical de l'assurance maladie peut demander la suspension du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie sur la seule base d'un contrôle effectué par un médecin mandaté par l'employeur. Le médecin conseil se bornera à valider l'avis du médecin contrôleur patronal. Après avoir seulement examiné par le médecin contrôleur mandaté par l'employeur, qui ne dispose d'aucun dossier médical, le salarié perdra les indemnités journalières complémentaires, mais aussi les indemnités journalières de l'assurance maladie, sans que le médecin conseil lui-même ne l'ait nécessairement examiné. Lors de la phase de concertation préalable à la publication du décret, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a été entendu que sur un point, la nécessité d'un nouvel examen de l'assuré lorsque le médecin contrôleur patronal n'a pu procéder à son examen. Exemple, absent du domicile. Pour le reste, l'assuré devra saisir dans les 10 jours le service médical qui disposera de 4 jours pour rendre sa décision, décret 2010-957 du 24 août 2010. En cas de nouvelle prescription d'arrêt de travail à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, celle-ci ne prend effet qu'après avis du service médical. Le Conseil national de l'Ordre désapprouve cette disposition susceptible de porter atteinte à la santé du salarié malade qui devra poursuivre son activité dans l'attente de l'avis du médecin conseil. La loi jette ainsi une suspicion inacceptable sur la justification médicale de l'arrêt de travail, dont on présume ainsi qu'il a été prescrit par simple complaisance. Je vous laisse à votre réflexion. La suite de notre émission va se poursuivre, et tout d'abord par notre page musicale. En écoutant Jean Ferrat, vous interprétez Le Bicentenaire. La diffusion de vos réflexions recueillies lors du micro-trottoir du 14 octobre sur le marché de Villefranche. Le débat du thème urgence, la santé. Et nous laisserons la place au billet d'humeur de notre ami Dominique. Mais laissons la place au débat qui nous concerne, la santé.
J'ai vu les ducs, j'ai vu les princes, des barons, des comtes, des rois, des marquises à la taille mince, qui dansaient au son des hautbois, dans des châteaux pleins de lumière, où les fêtes resplendissoient, où l'on chantait, il pleut bergère, dans le velours et dans la soie. Mais dans sa chaumière, mais dans sa chaumière, je n'ai pas vu pauvre Martin, pauvre Martin, pauvre misère, avec sa femme et ses gamins. J'ai tremblé devant la colère des va-nu-pieds des paysans, renversant l'ordre millénaire dans la fureur et dans le sang. J'ai vu la terreur apparaître, les châteaux partir en fumée, les délateurs régner en maître dans une France sans pitié. Mais dans sa chaumière, mais dans sa chaumière, je n'ai pas vu pauvre Martin, pauvre Martin, pauvre misère, tremblant de froid, mourant de faim. Siècle d'après 89, il fallait oser l'inventer. À la télé, on fait du neuf en acquittant la royauté. Deux siècles après 89, d'autres seigneurs veillent au grain. Et toi qui vivais comme un bœuf. Ce sont tes maîtres que l'on plaint. À 6 pieds sous terre, ton bicentenaire, ils l'ont enterré bel et bien. Pauvre Martin, pauvre misère, c'est toujours le peuple qu'on craint. Pauvre Martin, pauvre misère, c'est toujours le peuple qu'on craint.
La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Qu'en pensez-vous ?
Notre système de santé peut être un danger au niveau abus, parce qu'on va maintenant chez le médecin pour un oui ou pour un non, pour un rhume, pour une bricole. Et donc du coup, il y a des coûts tout le temps qui vont coûter cher à la société.
Quand on veut se soigner autrement, c'est pour notre poche.
Oui, la santé a un coût. La santé d'abord doit être réglée par solidarité. Tout le monde n'est pas en bonne santé, donc ceux qui sont en bonne santé doivent en faire profiter ceux qui ont des problèmes. Le coût de la santé, ça doit être partagé en tout cas.
Je pense que dans un régime démocratique et social qui devrait être destiné à assurer le bien-être de la population, le coût est complètement secondaire puisqu'il est lié à une répartition des richesses. Et c'est un bien public à sauvegarder, essentiel, et donc la question du prix, pour moi, est complètement secondaire.
Bien sûr qu'elle a un coût. Pour être bien soigné, ça suppose de la technicité, du personnel. C'est tout à fait normal et bon, moi, je suis prêt à payer au niveau des impôts, en particulier pour la sécurité sociale, de façon à être soignée correctement.
C'est évident qu'elle a un coût, d'abord parce que tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est même de moins en moins justement remboursé. Ils ont trouvé le moyen d'appeler un certain nombre de médicaments, des remèdes de confort, ce qui est absurde parce qu'on en a besoin. Et puis d'autre part, bon, même quand on essaie d'utiliser par exemple les services hospitaliers, on vous envoie souvent dans les services privés de ces hôpitaux et ça, ça va pas du tout.
Je suis tout à fait d'accord puisque les recettes de l'assurance maladie servent à payer les dépenses de santé et donc il ne peut pas y avoir de course en avant sans régulation. Et par contre, le prix actuellement de la santé est un peu dérégulé, mais les recettes de l'assurance maladie du fait de moins grandes causes de travail sont limitées. Donc on a actuellement un problème, c'est que les dépenses de santé augmentent, mais les recettes ne suivent pas.
La santé, oui, elle a un coût, c'est très très grave, oui, parce que bientôt, nous n'en aurons plus, parce que nous cotisons. Je veux dire que bon, c'est une honte au jour d'aujourd'hui ne pas pouvoir se soigner. Il y en a qui ne peuvent pas se payer les médicaments alors qu'on cotise. C'est quand même une honte, en cotisant, ne pas pouvoir se soigner.
Je dis qu'il faut que ça soit un coût supporté par tous les citoyens. En fonction de leurs revenus, ils doivent payer la sécurité sociale pour qu'elle fonctionne correctement, que les hôpitaux publics puissent assurer leur budget et qu'on soit soigné avec les moyens modernes qui existent à l'heure actuelle, que la science nous a amenés.
Pensez-vous que notre système de santé est en danger ? Pourquoi ?
Il est en danger parce qu'on privatise de plus en plus les systèmes de santé, quoi. Parce que moi, j'ai pas de mutuelle et je me rends compte que je suis de plus en plus pénalisée, quoi, disons.
Oui, il est très en danger. Pour la même raison que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que la santé, c'est essentiellement la solidarité et qu'actuellement, on essaye de démolir tout ce qui va dans le sens de la solidarité, c'est-à-dire une santé à 2 vitesses ou à 3 vitesses, des régimes différents. On privatise, on licencie et tout ce qui est solidaire, c'est-à-dire tout ce qui est public, est à l'arrière-garde.
Il est en danger, c'est évident, parce que la casse du système de santé a été programmée, comme celle de tous les services publics. C'est quelque chose qui a été décidé à l'échelle internationale par l'accord général sur le commerce des services, la GCS, qui a été signé et ratifié par les gouvernements. Donc les services publics sont détruits, démantelés, et c'est aussi inclus le démantèlement dans le traité constitutionnel européen puisqu'il ne les reconnaît pas.
Oh, ça c'est clair, il y a eu des attaques sur la sécurité sociale avec le déremboursement des médicaments en particulier, mais on va vers une privatisation, enfin le gouvernement actuel en France va vers une privatisation. La santé est en danger, c'est indiscutable.
Il est vraiment en danger parce que justement on rogne les acquis gagnés justement par le monde du travail, par les travailleurs, d'année en année, c'est grave.
Alors le système de santé français qui, au dire de nos dirigeants, est le meilleur du monde par rapport à certains services de santé privés, par exemple les États-Unis, effectivement est très bon. Mais en réponse, un petit peu en confirmation de ma réponse à la première question, je pense qu'il est en danger.
Bien sûr qu'il est en danger, puisque nous avons des pouvoirs publics, un gouvernement qui favorise le système privé. Faire gagner de l'argent aux actionnaires de cliniques privées, c'est scandaleux. On ne doit pas faire de l'argent sur de la santé. On doit demander aux citoyens, à sa juste mesure, le prix que ça coûte. Mais on ne doit pas aller au-delà de bénéfices. On doit assurer le fonctionnement comme il faut des hôpitaux, mais pas aller au-delà de bénéfices. Le bilan global financier, le compte financier global devait être à zéro. Une fois qu'on a payé tous les gens leur salaire, et je suis pour de bons salaires aux bons médecins, aux bons chirurgiens, il n'y a pas à pleurer de très bons salaires à de très bons chirurgiens qui font des exploits. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on doit assurer la solidarité nationale et ne pas faire bénéficier des actionnaires qui restent devant leur télé dans leur villa. C'est pas normal qu'on fasse des bénéfices sur des cliniques et sur des hôpitaux.
Que représente pour vous la sécurité sociale ?
La sécurité sociale, c'est essentiel pour les gens de conditions moyennes pour pouvoir se soigner.
La sécurité sociale, c'est d'abord une victoire populaire, parce que la sécurité sociale est issue du programme du Conseil national de la résistance, et que dès qu'elle a été mise en place, elle a été mise en difficulté par ceux qui n'en profitaient pas, puisque la sécurité sociale, c'est avant tout une masse énorme d'argent, de capitaux, et ceux qui habituellement profitent des capitaux voient une manne énorme leur échapper. Donc ils ont battu en brèche cette victoire populaire qui est en train de partir un peu en lambeaux.
On en a besoin. On peut pas se soigner sans cela. Nos anciens, quand même, se sont battus pour ça.
La sécurité sociale, d'abord, c'est une conquête qu'il faut absolument protéger. C'est une égalité, une solidarité, c'est quelque chose d'essentiel à protéger et il faut tout faire pour ça.
Je pense que ce système de sécurité sociale qui touche la maladie, qui touche aussi les allocations accidents du travail, est actuellement le meilleur du monde, mais il est en danger et je pense que dans quelques mois, on risque d'en reparler et ça sera une continuité de la politique actuelle où, avec la loi hôpitaux, territoires de santé qui a été mise en place, déjà il y a eu un coup de frein sur la santé et on le voit avec les décrets d'application qui, jour après jour, rognent la part qui est remboursée par l'assurance maladie et laissent de plus en plus de parts à la charge des patients. Et les patients qui n'ont pas de mutuelle, aujourd'hui, risquent d'être très mal soignés.
La sécurité sociale, c'est un lien entre tous les travailleurs. Et ce qui est important, justement, c'est toute la solidarité entre travailleurs. C'est quelque chose, donc, à conserver absolument et pour laquelle il faudra se battre. Après les retraites, on se battra, ou en même temps que les retraites, puisque ce sont des faits de société.
Mais la sécurité sociale, elle représente l'essentiel de la démocratie, l'essentiel de la République, l'essentiel de la citoyenneté. Peut-on être citoyen s'il n'y a plus la sécurité sociale ? Si on est malade, si on ne peut pas se faire soigner convenablement.
Avez-vous rencontré des difficultés, vous ou votre entourage, pour vous faire soigner ?
C'est difficile à répondre, non, pas vraiment, quoi. Donc, il faut d'abord être malade pour rencontrer des difficultés, mais peut-être dans la prévention. Si on prévient les maladies, on a moins de mal à se faire soigner par la suite. Mais la prévention est plutôt absente.
J'espère ne pas en rencontrer pour le moment, donc pas eu de gros problèmes de santé.
Moi jamais, personnellement, j'ai un copain qui est au RSA, qui a perdu une dent, qui s'est cassé une dent de devant, bien visible, et qui ne va pas se faire soigner, faute de pognon, tout simplement. Il n'a pas de mutuelle parce qu'il ne peut pas s'en offrir une.
Même moi, qui pourtant une retraite d'enseignante, même moi, oui, j'ai eu des difficultés, même ici, par exemple, pour avoir des rendez-vous, parce que pour avoir un rendez-vous rapide, on m'envoyait dans un service privé et je ne voulais pas y aller, par exemple. Même ici, à Villefranche.
Alors moi, je suis peut-être un citoyen privilégié. Je n'ai pas de problème au niveau des remboursements. J'ai une mutuelle, je n'utilise pas une mutuelle privée d'assurance qui me couvre bien. Je n'ai pas de problème de santé au niveau des yeux, au niveau des dents, au niveau des opérations. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de difficulté. Mais je tiens à dire que je suis peut-être un citoyen privilégié.
Peut-être pas tant que ça pour le moment. J'ai été dans des hôpitaux publics et pour le moment, j'ai été reçu à peu près correctement, mais je sens très bien qu'il y a une tension énorme dans le personnel. Et je sens qu'on laisse tomber tout ça.
Les soins sont-ils accessibles à tous et dans les mêmes conditions pour chacun?
Non, parce que le système de sécurité sociale est bien canalisé pour certains soins, mais aussitôt qu'on déborde un peu, qu'on va chercher, ne serait-ce que de l'ostéopathie, hein, par exemple, ça c'est pour notre poche.
Non. Il y a une santé à 2, 3, 4 vitesses. Donc d'abord, en ce qui concerne la prévention, depuis des années, on a vu comment les dispensaires n'existent quasiment plus. Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, on pouvait aller gratuitement faire des consultations. Et puis ensuite, quand on est vraiment malade, il y a des cliniques privées, il y a des hôpitaux privés, etc., etc. Alors que le service à l'hôpital garde toute sa puissance d'accueil.
Actuellement, pas du tout, puisqu'on sait très bien que les cliniques privées sont favorisées, que les hôpitaux, on leur laisse les services qui sont les plus coûteux, etc. Et puis, il y a des médecins qui, dans les cliniques privées et même en consultation privée en milieu hospitalier, pratiquent des tarifs exorbitants, des dessous de table. Et si on veut être soigné bien et rapidement, il faut passer par le système privé. Et c'est quelque chose de très grave.
Théoriquement, d'après la loi, en particulier la loi CMU, tout citoyen a droit à des soins de qualité. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être distinguer les soins pratiqués par les médecins et les soins qui sont pratiqués en hospitalisation. Alors théoriquement, tout médecin doit recevoir un patient, quels que soient ses revenus. Or, il est courant de noter que certains médecins, en particulier des spécialistes, refusent des malades qui relèvent la CMU, ce qui est un scandale, puisque ces médecins, normalement, sont remboursés. Donc, sur le papier, la loi française donne l'accès aux soins à tous les citoyens. En pratique, c'est différent, hein, malheureusement.
Même quand il y a des soins, il y a les suites des soins. Les suites des soins, si on n'a pas la sécurité sociale et ensuite une bonne mutuelle, à ce moment-là, on est souvent coincé. Et même pour nos enfants, on voit les problèmes. Et puis c'est très compliqué, je vois même quand je change de lunettes, même moi, je suis obligée de pouvoir payer en plusieurs mensualités. Et moi, je peux quand même payer en plusieurs mensualités, mais il y en a qui ne peuvent même pas. Que ce soit le problème des dents, le problème des yeux, c'est une véritable catastrophe.
Ça serait bien d'arriver à plus de solidarité et de rétablir ce qui est tout à fait possible financièrement, vu les sommes qui existent, mais qui ne sont pas accessibles aux plus démunis.
Mais ce qui se passe pour la santé, ça se passe pour l'éducation, ça se passe pour les deux ou trois choses importantes de la vie d'un homme. Les choses fondamentales, c'est la santé et l'éducation. Si je n'ai pas la santé, si je n'ai pas l'éducation, je ne suis plus un homme, je ne suis plus un citoyen, je ne suis plus rien du tout. La République n'a plus aucun sens. L'homme République n'a plus aucun sens. Et le boulot et le travail. Et il est évident que si vous êtes riche, vous aurez à votre portée des professeurs de santé, de médecine et des professeurs d'éducation qui ne seront pas à la portée des gens pauvres. C'est évident.
Aujourd'hui, nos invités sont Chantal Chevalier, médecin généraliste à la retraite qui a pratiqué son métier à Damary-les-Lys, dans une ville de la région parisienne, ainsi que Charles Sèvre, directeur adjoint des centres hospitaliers de l'Aveyron et retraité. Et nous allons commencer par donner la parole à Chantal Chevalier.
Bonjour, je crois qu'une des choses importante dans la vie de quelqu'un, c'est la santé. Du reste, on dit toujours la santé, tant qu'on a la santé. Je voulais faire un préalable à mon intervention, sachant que l'existence de la sécurité sociale est le principal facteur d'égalité d'accès aux soins des Français et a été jusqu'à présent une garantie de qualité de ces soins. Maintenant, ce préalable posé, je voudrais prendre le problème avec la manière dont les Français reçoivent les problèmes de santé auxquels ils sont confrontés, notamment les problèmes pour se soigner et avec la médecine de ville. Je pense que Charles Sève parlera de la médecine hospitalière. Les Français sont confrontés à quatre problèmes importants. L'existence du dépassement d'honoraires chez les praticiens, les problèmes de permanence de soins, les problèmes de démographie médicale et les problèmes de déremboursement de plus en plus importants des médicaments. Alors, il va falloir faire un historique de ce qui s'est passé par rapport à la permanence des soins. Vous savez qu'il existe deux secteurs de conventions médicales. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent cet état de fait. Ces deux secteurs de conventions médicales prennent leur source en 1980. À l'époque, il n'y avait qu'un seul secteur de conventions médicales. En 1980, on a établi deux secteurs, non pas par rapport à la compétence des praticiens, mais simplement par rapport à la prise en charge de leur charge d'URSSAF par les caisses de sécurité sociale. Le secteur 1, conventionné secteur 1, s'engage à garder des honoraires donnés par la sécurité sociale, soit maintenant, je crois que le C du généraliste est à 23 euros. Et pour compenser cet état de fait, une partie de ces charges d'URSSAF sont prises en charge par la sécurité sociale. Une partie seulement, bien sûr. Pour ceux qui sont conventionnés secteur 2, il n'y a aucune prise en charge par la sécurité sociale de leur URSSAF, mais ils peuvent appliquer des dépassements d'honoraires avec un terme qui est tout à fait particulier, à savoir avec tact et mesure. C'est l'historique des deux secteurs. Il existe bien sûr un troisième secteur qui est la non-convention, qui ne droit qu'à un remboursement forfaitaire de 10%, je crois, ou 20%, même pas du prix de la consultation de base. Mais je pense que ça, ce sont des choix de praticiens et de patients tout à fait particuliers. Je crois qu'il était important de donner cette explication sur les deux secteurs pour comprendre la dérive qui se fait par rapport au dépassement d'honoraires. La plupart des généralistes sont restés en secteur 1, sauf dans certains départements, comme celui de la Seine-et-Marne, par exemple, où il y avait eu un mot d'ordre syndical pour passer tous en secteur 2. Par contre, la plupart des spécialistes, ou tout au moins un très grand nombre, sont passés en secteur 2 et donc appliquent des dépassements d'honoraires qui vont croissant de plus en plus. Le tact et la mesure, je ne sais pas toujours ce que ça veut dire. La permanence des soins. Alors la permanence des soins, c'est les gardes, c'est-à-dire que le médecin ou son remplaçant ou le système de garde doivent répondre à la demande de soins 24 heures sur 24. Mais c'est plus du tout le cas. Les gardes ne sont plus assurées par les médecins de façon très régulière. Il faut quand même, là aussi, se rappeler de ce qui s'est passé. Dans les années 90, par rapport à la permanence de soins, les médecins avaient un tableau de garde établi par l'Ordre des médecins. Dans ces années-là, est apparu un service d'urgence qu'on a appelé SOS Médecins. Qui a surtout investi les grandes villes, parce que c'était plus intéressant, qui a, pour ainsi dire, mangé la laine sur le dos des généralistes qui faisaient les visites comme ils pouvaient, qui faisaient les visites, les consultations, et qui assumaient plus ou moins la permanence des soins. Il faut dire qu'à ce moment-là, la population n'était pas pour rien dans le fait de l'apparition de SOS Médecins. Parce que les gens voulaient être servis tout de suite. Ils voulaient une visite, il fallait être là dans l'heure qui suivait. Si on n'était pas là, on faisait appel au médecin urgentiste, SOS Médecin, qui est un organisme libéral, qui n'est pas du tout un organisme officiel, et qui avait en plus le droit de faire de la publicité, Alors que la publicité est formellement interdite dans notre exercice libéral de médecin général, de médecin globalement. Donc, ce qui fait que les médecins qui faisaient les gardes n'avaient pratiquement plus rien à faire pendant leur garde, sauf les petites choses, aller faire un constat de décès d'un suicidé, des choses comme ça. Ce qui fait que petit à petit, ils se sont désintéressés des gardes, ils ont refusé de faire des gardes. Et ça a été bien sûr surtout le problème dans les grandes villes, mais ça s'est répercuté aussi dans les campagnes. Parce que les médecins n'ont plus voulu faire les gardes parce qu'ils se sentaient un peu brimés par ce système d'urgentistes. D'où les problèmes de permanence des soins qui est maintenant que quand on est malade, on est tout de suite dirigé sur une plateforme qui, par exemple, pour Yopérou, peut être à Toulouse ou je ne sais pas où, avec un médecin régulateur qui répond. Et vraiment, s'il y a une urgence importante, c'est les services ou des pompiers ou le SAMU ou des choses comme ça qui se déplacent. Et dans les campagnes, ça pose quand même des problèmes. Dans les villes aussi, vous me direz, mais les services hospitaliers sont plus près. Le troisième point que je voulais soulever, c'est la démographie médicale. Pour le moment, il y a 50 000 généralistes en exercice, sachant que leur âge moyen se situe autour de 50 ans et que dans quelques années, ces généralistes qui vont partir à la retraite ne seront pas remplacés. Et on estime que dans 10 ans, ce n'est pas 50 000 généralistes, il y aura ces 15 000 sur le territoire. Ce qui va poser des problèmes considérables. Et on va avoir des déserts médicaux. Ces généralistes seront bien évidemment surtout dans les villes. Les déserts médicaux parce que dans les campagnes, le généraliste se sent seul. Comme il y a une rémunération uniquement à l'acte, il faut qu'il fasse suffisamment d'actes pour arriver à gagner sa vie. Alors, j'ai entendu ce matin quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Pour compenser les déserts médicaux, le gouvernement dit « bon, ben on va mettre Internet et on va faire des consultations sur Internet qui seront remboursées par la Sécurité sociale. » Et on enverra directement l'ordonnance à la pharmacie. Et puis voilà, tout va passer par Internet. Ça semble être la solution. Moi, j'ai appris pendant mes études qu'il fallait que le médecin écoute, soulage et guérisse s'il le peut. Où est le colloque singulier à travers Internet? Moi, ça me pose vraiment des questions. Quatrièmement, les problèmes du déremboursement de plus en plus important par la Sécurité sociale. Alors, on nous parle du trou de la Sécurité sociale. Ça, c'est l'arlésienne, le trou de la Sécurité sociale. Moi, je ne sais pas comment on calcule le trou de la Sécurité sociale. Ouais, j'ai siégé dans les commissions paritaires, où j'étais en Seine-et-Marne, où la Sécurité sociale n'était même pas capable de savoir combien il y avait de médecins référents à l'époque, alors qu'on était 40 sur la Seine-et-Marne. Alors, je ne sais pas comment ils font pour calculer le trou de la Sécurité sociale. Il y a un autre gros problème au niveau du remboursement, c'est le problème du déremboursement des médicaments. Moi, je suis scandalisée. Et je le dis du plus profond que je puisse le penser, par le déremboursement de produits qui deviennent généricables, le déremboursement de produits, de médicaments qu'on a utilisés pendant des années, sans avoir trop de problèmes, qui nous ont rendu énormément de services, au profit de nouveaux médicaments qui sont beaucoup plus chers, qui sont pas forcément plus efficaces. Et moi, j'appelle ça du lobbying des laboratoires pharmaceutiques. Et on est en train de mettre à genoux une partie de la Sécurité sociale avec ça. En gros, ce que je voulais dire, en très gros, bien sûr, on pourrait s'étendre beaucoup sur... Mais j'ai essayé d'être un petit peu précise sur des problèmes que les gens peuvent se poser.
Vous nous avez donné un aperçu très exhaustif des problèmes que pose la médecine actuellement, enfin qui, qui gravitent autour de la médecine, pour autant dire. Je voudrais revenir sur une déclaration que vous avez faite dans le cadre de votre introduction concernant l'importance de la sécurité sociale. Vous nous avez dit que la sécurité sociale actuellement était la garantie de la qualité des soins médicaux. Donc, je considère que concernant la tendance actuelle qui voudrait en quelque sorte, je dirais, considérer tout ce qui touche la sécurité en matière de santé, la détacher donc des actes de solidarité que représente la sécurité sociale et en faire une assurance quelconque, type assurance auto ou assurance maison ou assurance. Est-ce que vous pouvez approfondir votre pensée à ce niveau-là et nous dire?
Alors, bien entendu, s'il n'y a plus la solidarité entre les bien portants et les malades, il est bien évident que on va aller maintenant sur un problème comptable. Et moi, je pense que la santé n'a pas de prix, même si elle a un coût. Je ne dis pas qu'il faut soigner au plus grand coût. On a vu que les Américains se soignaient avec beaucoup plus de coûts que nous et n'avaient pas de meilleurs résultats. Par contre, ça ne doit pas devenir n'importe quelle assurance. Parce que les assurances, quand vous regardez bien, si vous êtes quelqu'un à risque, on vous exclut de l'assurance. Les assurances voitures, par exemple, quand vous avez trois accidents, on vous dit au revoir monsieur, au revoir madame, vous êtes trop accidentogène, même si ce n'est pas de votre faute, on vous supprime de l'assurance. Et on risque de faire la même chose. J'ai même lu qu'on voulait supprimer les affections longue durée, qu'on voulait s'attaquer aux affections longue durée. Les affections longue durée, c'est les cancers, c'est le sida, c'est le diabète, l'hypertension grave. On veut supprimer certaines maladies des affections longue durée. C'est un moyen comme un autre de virer les gens qui sont des gens à risque.
Je voudrais revenir aussi sur un deuxième point, si vous le permettez, celui concernant la densité de médecins dans les zones rurales, une densité qui est très faible. Et ceci est propre, je pense, au département de l'Aveyron, qui est un département rural, tout au moins en grande partie. Est-ce que vous auriez donc une solution, compte tenu du nombre d'étudiants qui sortent en dernière année de médecine chaque année, est-ce que vous auriez une solution permettant de résoudre ce problème sans imposer évidemment des solutions autoritaires?
Moi, j'ai une proposition, en fait, qui m'est toute personnelle. Je pense que le seul paiement à l'acte n'est pas suffisant. Quand un médecin se retrouve dans un petit patelin, il faut savoir qu'il, pour vivre, il lui faut une activité suffisante. Actuellement, parce que à moins de 25-30 actes par jour, il ne vit pas de façon décente. Le médecin ne vit pas de façon décente. Parce qu'il a des charges, parce que c'est une profession libérale, parce qu'il faut qu'il se forme, parce que pour des tas de raisons. Il faut qu'il s'informatise, enfin pour des tas de raisons. Je pense que on pourrait rémunérer une partie de cette activité médicale à la fonction. Alors, c'est-à-dire le fait qu'il soit présent dans cet endroit-là, on pourrait lui donner une indemnisation forfaitaire. Je dis n'importe quoi comme chiffre, c'est à discuter bien sûr, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Disons 1 000 euros par mois ou je ne sais pas. Hein. Et est-ce que ça serait la sécurité sociale qui paierait ça? Est-ce que ça serait l'État? Mais qu'on arrête de ne laisser le revenu des médecins que sur l'acte médical, qui est une partie à la fonction. Ça m'est tout à fait personnel, mais je pense que c'est une solution qu'on pourrait étudier.
Effectivement, c'est une solution qui devrait être étudiée parce que c'est un problème très important, surtout dans la région rurale. Et je crois que de plus en plus, dans certains, je dirais pas villages, dans certaines zones plus ou moins rurales, on ne trouve plus de médecins. Et c'est un problème qui devient de plus en plus urgent à traiter. On pourrait donner la parole donc maintenant à M. Charles Serre.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Chantal en ce qui concerne la sécurité sociale. Sans le système actuel en France, l'hospitalisation ne serait pas assurée de façon correcte. Et en particulier, il n'y aurait pas des hautes technicités faites dans les centres hospitaliers universitaires. Alors l'hospitalisation, c'est le complément de des soins de ville. Elle est assurée donc en France par des établissements de santé. Alors il y a deux types d'établissements de santé. Il y a le premier type d'établissement public, bon, les centres hospitaliers régionaux et universitaires, et des établissements privés d'intérêt collectif. Je serai un exemple, le centre de lutte contre le cancer. Et l'hospitalisation est assurée par un deuxième type d'établissement. Ce sont les établissements privés à but commercial, bon, ce qu'on appelle les cliniques privées. Alors ces deux types d'établissements assurent le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Ces établissements participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en ville et établissements et services médico-sociaux. Donc déjà, on voit bien qu'il y a un lien important entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. Il y a des liens maintenant qui sont réguliers. Le médecin hospitalier adresse automatiquement un courrier de sortie au malade pour que celui-ci, lorsqu'il voit son médecin généraliste, il soit au courant de ce qui a été fait. Donc cette liaison entre médecine de ville et médecine hospitalière est maintenant rentrée dans les faits et fonctionne très bien. Je voudrais parler quand même maintenant de la nouvelle loi hospitalière, puisqu'il y en a déjà eu plusieurs dans le passé, de 58 à 70. La dernière qui a été mise en place, c'est la loi 879 du 21 juillet 2009, qui porte réforme de l'hôpital et qui est relative aux patients, à la santé et au territoire. Cette loi dit HPST, donc dite loi Bachelot, hein, pour que ça aille plus vite, pour que les gens reconnaissent mieux cette loi, fixe le cadre législatif de fonctionnement des établissements de santé. Alors la loi, ce qui est important, elle reconnaît l'égal accès à des soins de qualité pour tout patient. Alors soins de qualité, ça apparaît dans la loi, et cette qualité, elle est mesurée. Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité, j'insiste, et de la sécurité des soins, et une gestion des risques visant à prévenir et à traiter les événements indésirables liés à cette activité. Donc les établissements de santé, donc publics et privés, doivent mettre à la disposition du public les résultats chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Ce qui fait que tout patient peut savoir quel est le niveau de qualité de l'établissement dans lequel il a été. Ça se met en place et ça sera connu. Alors il y a des critères différents, alors je ne vais pas tous les citer. Par exemple, pour voir la qualité des soins, on va analyser la quantité de solutions hydroalcooliques qui mesurent la capacité des praticiens à se laver les mains, ce qui est un geste important puisque la plupart des affections sont manuportées. Voilà des critères objectifs qui ont été reconnus par la loi et qui s'appliquent à tous les établissements de santé publics et privés. Par contre, la loi Bachelot a profondément modifié le mode de gestion des hôpitaux publics. Cette loi veut imposer aux établissements privés et publics le même mode de fonctionnement. Au niveau par exemple, de l'hôpital public, le conseil d'administration qui autrefois était présidé par le maire a disparu. Il a été remplacé par un conseil de surveillance. Donc vous noterez l'importance du vocabulaire. Le rôle du conseil de surveillance est nettement moindre que celui du conseil d'administration. Alors, en complément de ce mode de fonctionnement, la loi a accru le rôle du directeur. Le directeur, maintenant, est nommé par le directeur général de l'Agence régionale de santé. Donc, ce directeur dépend directement de ce haut fonctionnaire. Et par voie de conséquence, il doit appliquer les directives que lui impose ce haut fonctionnaire, qui lui-même est nommé par le ministère de la Santé. Donc, il y a une dépendance du directeur vis-à-vis de ce haut fonctionnaire, et non plus une dépendance du directeur vis-à-vis du conseil d'administration. La loi a malheureusement remplacé la logique de santé publique par une logique comptable. C'est ce qu'on retrouve un petit peu, ce que disait Chantal dans son propos aujourd'hui. Ce qui compte, c'est l'argent, c'est plus le soin. Alors, autre particularité de la gestion de l'hôpital public, c'est la mise en place de la tarification à l'activité. Alors, que veut dire ce mot barbare? Ben, c'est-à-dire que la recette de l'hôpital est basée sur une activité. Et cette activité, elle est codifiée par des actes. Chaque acte médical est codifié et a une valeur.
Et cette valeur correspond aux recettes qui sont facturées à la Sécurité sociale. Alors, les auditeurs doivent savoir, peut-être que c'est intéressant que cette activité, cette codification à l'activité, on pourrait se dire, plus l'établissement hospitalier travaille, plus il est rémunéré. Ce qui paraît logique, c'est une logique qu'on entend depuis quelque temps. Alors, il faut savoir quand même que le rôle de l'hôpital public est d'accueillir tous les malades, contrairement aux cliniques privées commerciales qui peuvent sélectionner leurs clients. Et les activités moins rémunérées se retrouvent à l'hôpital public. Il est facile de comprendre pourquoi la majorité de l'activité chirurgicale générale et de spécialité, ophtalmologie, urologie, est réalisée en établissement privé à but commercial. L'activité médicale, par contre, qui n'est pas chirurgicale, elle, qui est beaucoup moins rémunérée, est faite majoritairement en établissement public. Alors, vous comprenez facilement pourquoi les cliniques privées n'ont pas intérêt à faire de la médecine, puisqu'elles rapportent moins, parce qu'il y a déjà moins d'actes. Alors, dernière particularité de la nouvelle loi de juillet 2009, ce qui est un élément positif, elle veut favoriser les coopérations entre établissements de santé. Elle a prévu la création de communautés hospitalières de territoire. Le territoire, c'est un secteur géographique à l'intérieur du département. Cette coopération se fait sous forme de convention et permet aux établissements de mettre en commun une stratégie et de gérer en commun certaines activités. Par exemple, un équipement de radiologie, scanner, qui peut être commun à deux structures. Et la loi hospitalière a même prévu d'aider les établissements qui s'engageraient dans cette voie par un financement majoré de 15%. Donc les pouvoirs publics veulent pousser la coopération, ce qui est une bonne chose. Alors cette incitation financière de 15% en plus s'arrêtera au 31 décembre 2012.
Oui, je voudrais vous poser une question concernant justement la réforme de l'hôpital. On ne voit pas très bien, lorsqu'on est un profane, comme moi, on ne voit pas très bien quelle est la finalité de la ministre lorsqu'elle a décidé de remplacer le conseil d'administration, qui fonctionnait quand même très bien dans l'hôpital, par un conseil de surveillance. Quelle est la finalité de cette décision? Parce que je crois qu'une ministre, lorsqu'elle prend une décision, c'est dans un but précis. Est-ce que c'est pour avoir plus d'efficacité? Apparemment, ce n'est pas le cas. Il y a quand même une raison. Et par ailleurs, on peut dire aussi que il y a une dérive concernant l'hôpital, et en particulier l'hôpital public, une dérive qui a tendance à laisser, vous l'avez dit tout à l'heure, les actes qui ne sont pas particulièrement rentables à l'hôpital public, et réciproquement, les actes particulièrement rentables à l'hôpital privé. Là aussi, quelle est la finalité de ceci? Est-ce que c'est une finalité particulière, bien qui répond à une idéologie, ou bien est-ce que c'est une recherche peut-être un peu utopique du bien de tout le monde?
Alors, pour répondre au premier point, je pense que la finalité, elle est simple. En diminuant le rôle des administrateurs, en diminuant le rôle des élus en particulier, par un conseil de surveillance, la ministre voulait faire taire un petit peu les récriminations des élus des collectivités territoriales. Et en corollaire à cette diminution de fonctions, elle a augmenté le rôle du directeur, qui lui est un fonctionnaire, alors je voudrais pas dire aux ordres, mais entre guillemets, comme du directeur de l'ARS, Agence Régionale de la Santé, puisque faut savoir que si ce directeur n'applique pas les consignes du directeur de l'ARS, il peut être remercié et envoyé ailleurs. Donc je pense que l'auditeur va comprendre que en ayant diminué le rôle des élus et en ayant augmenté le rôle d'un fonctionnaire, la manœuvre est plus facile et il est plus facile de faire passer des plans de restructuration. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, le deuxième point, il faut savoir que cette loi a fait l'objet de nombreuses réunions. Je me suis intéressé à l'époque, même si je venais de prendre ma retraite. Dans les commissions qui figuraient pour préparer cette loi, il y avait des acteurs très importants du secteur privé commercial qui ont fait un véritable lobbying et qui ont été entendus, puisque aujourd'hui, la majorité des actes chirurgicaux est fait en établissement privé, c'est pas un problème uniquement de rémunération des médecins, puisque à l'hôpital public, les chirurgiens de qualité, il y en a, heureusement, qui font du très bon travail et qui sont bien rémunérés. Mais effectivement, la logique comptable à court terme a prévalu. Et alors, ce qui pose un problème, parce que les gens qui n'ont pas, à l'heure actuelle, tout le monde est couvert ou à la CMU, mais les gens qui n'ont pas de mutuelle, dans les établissements privés à but commercial, enfin donc les cliniques privées, il y a un problème de soins parce qu'effectivement il y a des dépassements d'horaires, il y a des activités qui sont en supplément, et donc ça posera nécessairement un accès de tous les citoyens au secteur d'hospitalisation, puisque il y a certaines activités dans la région qui sont faites majoritairement à un établissement privé. Et le patient qui voudrait aller qu'à l'hôpital aurait peut-être des difficultés. Voilà ce que je voulais dire. Donc on est vraiment, ça pose le problème, déjà, qui rejoint celui qu'avait évoqué Chantal de la pénurie de médecins. Là, ça pose le problème de l'accès, tout simplement, égalitaire, de tout citoyen à être hospitalisé dans des conditions identiques.
Je voudrais poser une question qui est toujours en rapport avec ceci. Les CHU ont une réputation très très positive. Et est-ce que là, compte tenu des restrictions qui sont imposées actuellement aux universités, est-ce qu'on peut considérer, les CHU dépendent des universités, les centres hospitaliers universitaires, est-ce qu'on peut considérer que la qualité donc de soins apportés par les CHU se maintiendra, ou est-ce qu'il y a une dégradation à ce niveau-là due à des problèmes de financement ou autre?
Ce que je peux dire, c'est que les CHU ont été les premiers qui ont été victimes de réductions massives d'emplois. Donc, il est évident que vous allez comprendre que si on diminue les effectifs, on va diminuer l'offre de soins. Alors, il faut savoir qu'il y a des CHU qui, pendant l'été, ferment certains secteurs. Certains blocs. Alors ça pose quand même un problème. Après, la diminution du nombre d'étudiants en médecine, bon, elle est inégalement répartie sur le territoire, mais je pense que les CHU continueront à piquer la fonction d'enseignement des médecins. Mais effectivement, avec ce que vous avez dit, la diminution donc des effectifs va entraîner nécessairement une diminution d'activité des centres hospitaliers universitaires qui sera fait au profit des établissements privés. Un exemple, il y a une clinique sur la région toulousaine qui va se regrouper. Ils vont créer un établissement de plus de 400 lits. Quoi. Donc, voilà.
Et je crois qu'au niveau de la formation des étudiants en médecine, les cliniques privées vont pouvoir aussi participer à la formation des étudiants. Parce que le problème des CHU, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout ce qui est lucratif, notamment la chirurgie, passe dans le privé. Les CHU n'auront pas assez d'actes de ce type-là pour pouvoir former les étudiants. Donc il faudra les former ailleurs.
Mais je vous remercie et je tiens à vous remercier particulièrement Chantal Chevalier et Charles Serre. Je vous remercie de votre participation et je vous remercie d'avoir porté des éclaircissements sur ces problèmes que les gens connaissent plus ou moins.
J'aurais aimé dire Rome en italien. J'aurais aimé dire Rome, ville éternelle. J'aurais aimé déclarer Rome, unique objet de mon ressentiment. J'aurais aimé dire homme à tous les exclus de nos sociétés qui sont traités en sous-hommes. Mais l'actualité me force à crier, à hurler, frère Rome, frère homme. Ne laissez pas dire et mettre en acte des paroles qui ont une odeur nauséabonde de noir passé. Frères hommes, ne restez pas sans voix et sans réaction devant ces actes infâmes faits en votre nom. Frères hommes, vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas » parce que c'est en gras à la une de vos journaux et en gros sur vos écrans de télévision. Frère homme, réveillez-vous, sortez la tête du sable et voyez. Voyez la noirceur du monde, mais aussi sa beauté merveilleuse. Voyez la cruauté des hommes, mais aussi leur amour infini. Voyez l'âpreté de la vie, mais aussi sa douceur de miel. Voyez la lâcheté de vos frères, mais aussi leur incommensurable courage. Voyez et choisissez votre camp. Mais vous ne pouvez pas rester neutre et attendre que les autres choisissent pour vous. Vous êtes et resterez aussi responsable devant l'histoire. Quand on désigne à la vindicte populaire une catégorie ethnique de la population vivant sur le territoire de la France, l'histoire nous a douloureusement appris quelle peut être la suite. Nous dresser les uns contre les autres, alors que c'est d'union dont nous avons tous besoin. Faire ou suggérer l'amalgame entre délinquance et pauvreté, alors que la délinquance la plus lourde est, de loin, celle des plus nantis. Mettre en avant à bon escient telle ou telle affaire, tout cela est bien orchestré pour détourner le regard de la majorité des Français, aliéner leur raisonnement et dévier leur courroux. Et pendant ce temps, des personnes humaines sont renvoyées à la rue, poursuivies, expulsées, en raison de leur ethnie. Ils n'ont même plus la décence de se cacher. Les droits individuels sont mis à mal. La justice et ses juges sont vivement attaqués, des moyens d'action leur sont enlevés. Les caisses communes sont pillées pour le bien d'un petit nombre, d'un tout petit nombre au regard de tous ceux qui en auraient besoin. Le bien commun est passé de mode. On n'est pas des pigeons. L'exemple vient de très haut. Je crois même que Charles de Gaulle aurait eu honte. Où est passée la grandeur de la France ? Où est passé l'idéal républicain ? Où est passé le pays des droits de l'homme ? Le sang versé par beaucoup n'a-t-il donc servi à rien ? Tous unis dans le Conseil national de la Résistance, les outils minimums nécessaires pour faire vivre la solidarité et la fraternité ont été mis en place par nos anciens. C'est actuellement ce qui est en train d'être détruit, d'être saccagé, d'être pillé, d'être anéanti par les dignes héritiers de ceux qui avaient été mis à terre. La bête immonde est encore vivante. Elle renaît de ses cendres. Il y a urgence. Merci. Réfléchissons.
Notre émission touche à sa fin, mais auparavant deux mots sur ce vote du 15 septembre qui touche d'une façon importante la santé du travail. Vous pouvez consulter le site www.conseil-intermédiaire-national.medecin.fr pour connaître l'ensemble de cette prestation. Arrêtons-nous sur quatre propositions du Conseil de l'Ordre des médecins, à savoir: une indépendance des médecins du travail ne doit pas être altérée par de nouvelles règles de gouvernance des services de santé au travail. Des solutions innovantes doivent être mises en œuvre pour diminuer la pénurie médicale sans porter atteinte à la qualité du service pour des salariés et des employeurs. Le médecin du travail doit rester le coordinateur de l'équipe pluridisciplinaire. L'accès au dossier médical personnel par le médecin du travail doit être autorisé, sa traçabilité étant garantie en lecture comme écriture. Voilà, nous allons nous quitter. Nous vous donnons rendez-vous sur le marché de Villefranche le jeudi 4 novembre pour recueillir vos réflexions sur le sujet et le thème « Les prisons ». Pour les curieux, nos réunions se tiennent tous les premiers mercredis de chaque mois à la Maison des Sociétés. Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous écouter et réécouter sur cfmradio.fr, chronique, lutte contre les discriminations, le thème urgence. Merci, à bientôt.